Alors, parlons de la situation globale du myriophylle aipi. On parle d'une plante aquatique qui est envahissante chez nous et qui est présente dans la région actuellement?
Oui. Puis, en fait, elle est envahissante parce qu'elle est exotique, donc parce qu'elle ne vit pas normalement au Québec. Au Québec, on a plusieurs espèces de myriophylles là, qui sont dans nos lacs de manière indigène, là, qui sont natives du Québec. Mais cette espèce-là, le myriophylle aipi, est originaire d'Europe, d'Asie. Donc, c'est une plante qui est exotique et c'est ce qui contribue vraiment à ce qu'elle soit très envahissante dans nos lacs.
Actuellement, combien de lacs sont touchés chez nous, du moins les plus touchés là, par la propagation de cette plante-là?
Dans les Laurentides, il y en a à peu près une quarantaine, mais c'est sûr qu'on n'a pas fait le tour de tous les lacs. Donc, c'est vraiment les lacs qu'on connaît à l'heure actuelle là, qui nous ont été rapportés par nos contacts des associations de lacs et des municipalités principalement.
Quelles villes, par exemple, et quels cours d'eau qui sont touchés actuellement?
Bien, on pourrait en nommer plusieurs, mais notamment dans notre guide sur le myriophylle aipi qu'on a publié l'été dernier, on a mis des photos du lac à la truite, là, qui est un lac qu'on a beaucoup parlé à Sainte-Agathe-des-Monts, qui est très, très affecté là, par la plante actuellement. Donc, il y en a plusieurs autres aussi. Il y a le lac Quenouille aussi à Val-des-Lacs, pas trop loin, qu'on a parlé beaucoup. Dans le secteur de Mont-Tremblant, finalement, là, il y en a beaucoup dans le secteur, en périphérie notamment du parc aussi national du Mont-Tremblant. Puis aussi dans le nord aussi de la région, plus dans la MRC d'Antoine Labelle.
Actuellement, quels sont les effets connus de cette plante-là sur nos cours d'eau?
Bien, en fait, étant donné que c'est une plante exotique, elle n'a pas de prédateurs dans nos lacs, de prédateurs naturels. Donc, quand elle va être introduite dans un lac, elle va vraiment prendre le dessus, si les conditions sont favorables, là, sur les plantes qui sont naturellement présentes. Dans les lacs, notamment, où les sédiments sont riches en éléments nutritifs, notamment en phosphore, en azote, que les eaux sont transparentes, qu'il y a beaucoup de sel dans l'eau aussi. Là, on a récemment là, publié un rapport là-dessus, notamment l'année dernière. Mais la plante, elle va vraiment prendre le dessus, puis il va pouvoir couvrir des superficies vraiment importantes. Ça fait vraiment comme une forêt, finalement, sous l'eau. Là. On croirait qu'on pourrait marcher, dans certains cas, là, sur les lacs là, qui sont colonisés par cette plante-là.
Donc, cette plante-là va littéralement manger la flore, finalement, aquatique?
Bien, en fait, c'est qu'elle prend le dessus parce qu'elle va finalement causer la mort là, des espèces naturellement présentes, puis elle va prendre leur place. Puis c'est parce qu'elle a un moyen de se reproduire, en plus de ne pas avoir de prédateurs naturels, elle a un moyen de se reproduire qui est on appelle ça par fragmentation. Ça veut dire que un petit bout de la tige peut refaire des racines puis refaire une nouvelle plante. Donc plus on la coupe, plus que la plante se coupe, se fragmente, plus elle peut se répandre là, rapidement. Donc c'est vraiment qu'elle cause, dans le fond, une nuisance là, aux plantes naturellement présentes en captant les éléments nutritifs puis en captant la lumière, là, donc causant la mort finalement des plantes qui sont naturellement présentes dans nos lacs.
Est-ce que ça peut aussi étouffer peu à peu la vie animale, par exemple, les poissons et les autres animaux qui vivent sous l'eau?
Tout à fait, parce que c'est sûr que ça crée des grosses quantités de matière organique. Qui sont par la suite décomposés, là, qui peuvent être décomposés là, lors de la mortalité de la plante là, durant l'hiver. Bon, dans certains cas, la plante, le myriophylle aipi survit à l'hiver, là, mais il y a quand même une certaine mortalité qui est associée. Donc, on augmente évidemment la quantité de matière dans le fond des lacs, donc la décomposition, la consommation d'oxygène. On chamboule tout à fait là, la faune là, qui peut vivre dans la zone peu profonde des lacs. Puis on sait qu'il y a 80% de la vie d'un lac là, qui est dans la zone peu profonde, là, éclairée où les plantes poussent. Donc, c'est sûr que ça a un impact non négligeable.
Est-ce qu'on sait pourquoi, en fait, pas nécessairement pourquoi, mais bon, sa reproduction peut être créée par quoi? Est-ce qu'il y a des causes naturelles? Bon, je lisais notamment quand elle est coupée, par exemple, par une hélice de bateau, entre autres. Est-ce qu'on sait vraiment où ça se passe, où cette multiplication-là se fait?
Bien, en fait, la plante se fragmente d'elle-même de manière naturelle. Mais c'est sûr que de passer dedans avec un hélice de bateau, ben on contribue vraiment à couper la plante là, puis à la fragmenter. On aide finalement ce processus-là, on l'accélère. Il y a des gens qui arrachent aussi les plantes aquatiques, donc ça peut contribuer à la fragmenter. Mais vraiment, cette plante-là, si le milieu est propice pour elle, là, elle va trouver la façon d'occuper là. La place qui est disponible là. Au niveau des fragments, nous on travaille beaucoup pour éviter justement de transporter des fragments d'un plan d'eau à un autre, parce qu'au niveau de la colonisation de nouveaux plans d'eau là, c'est là qu'on voit que vraiment que l'humain a un impact là, parce que c'est nous qui transportons finalement cette plante là d'un plan d'eau à l'autre.
De quelle façon, par exemple?
Avec évidemment avec les embarcations. Mais je vous dirais que mes observations personnelles m'ont montré que la plante s'accroche vraiment beaucoup au matériel. Par exemple, aux encabateaux, à tout ce qui est moteur, remorque. Donc, c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur l'inspection de manière générale des embarcations. Donc, pas juste sur le lavage de la coque. C'est vraiment important là de vérifier vraiment son équipement. Évidemment, ben on peut le transporter cette plante-là par toutes sortes d'équipements là qu'on utilise dans les lacs là. Donc c'est vraiment chaque personne qui met quelque chose dans un plan d'eau devrait là faire l'inspection pour retirer là si jamais il y a des fragments de plantes aquatiques là sur ce qui est utilisé.
Quels sont les moyens pour lutter contre le myriophile aipi actuellement en tout cas?
En ce moment, il y a plusieurs projets qui sont testés. Vous parlez pour le contrôle une fois qu'un lac est envahi, c'est ça?
D'abord et avant tout, oui, puis peut-être par la suite, voir à prévenir ailleurs.
Au niveau du contrôle, il y a plusieurs projets qui sont testés actuellement, notamment, l'arrachage a été testé, la toile de jute et tout ça. On suit pas mal là les projets qui sont testés. Pour la première fois cette année, en fait, la toile de jute va être, il y a un projet scientifique là avec une université qui teste l'efficacité de ça. C'est assez, je vous dirais, ça nous apparaît assez difficile d'être capable de vraiment, une fois que la plante couvre des grandes surfaces, là, d'être capable de dire qu'on va réussir à éradiquer la plante, le myriophile aipi, là, qui est vraiment bien installée dans un lac. Par contre, ce qu'on sait, c'est que au début d'une infestation, si on trouve seulement quelques plants là, de myriophile aipi, bien, à ce moment-là, on peut essayer d'intervenir là, pour vraiment retirer la plante du lac. C'est pour ça que nous, on travaille beaucoup avec les associations de lacs pour les former à faire la détection, à faire des patrouilles de leur lac, puis d'être capable de détecter là, si le myriophile aipi finalement arrive à leur lac. Donc, de détecter finalement au début de l'infestation pour essayer de penser peut-être pouvoir intervenir là, pour limiter les dégâts.
Donc, ce que j'en comprends, c'est qu'il est un peu trop tard à certains endroits pour l'anéantir, mais on peut donc maîtriser la plante si on veut.
Bien, je pense qu'il y a certaines techniques probablement qui peuvent être utilisées pour récupérer certains accès là, pour les lacs, par exemple, comme le lac à la truite, où la plante couvre littéralement là, la zone 0,6 mètres de profondeur du lac là, au complet, tout le tour du lac. Donc ça fait en sorte qu'il y a comme une barrière de végétation là, vraiment tout le tour du lac. Donc les gens, pour se baigner, tout ça, c'est très difficile. Fait que dans des cas comme ça, de penser récupérer peut-être une plage, d'essayer d'utiliser des techniques pour récupérer une certaine portion du lac, mais de penser être capable d'enlever complètement la plante dans le lac, là, c'est vraiment... c'est sûr qu'on pourrait dire on va bétonner le fond du lac, on va mettre des herbicides, des choses comme ça, mais c'est pas des solutions qu'on veut utiliser là dans nos lacs. Donc, c'est ça, c'est vraiment difficile là, quand les plantes couvrent de grandes superficies là, d'intervenir sans nuire finalement à l'écosystème du lac, là.
Est-ce que l'interdiction des bateaux à moteur pourrait éviter sa propagation, comme c'est le cas dans certains lacs, bon, où les bateaux à moteur sont interdits?
Bien, en fait, l'exemple du lac à la truite que je vous parle, il n'y a pas de bateau au lac à la truite. Il n'y a pas de bateau à moteur, puis il y a du myriophile à épi. Donc, nous, on a plusieurs exemples de lacs qui n'ont pas de bateau, puis que la plante a réussi quand même à être introduite. C'est sûr que oui, le fait de, en fait, pas d'interdire, mais le fait de contrôler, d'exercer un contrôle, puis surtout de, c'est vraiment de travailler en prévention avec les gens pour vraiment les informer sur le risque quand ils se promènent d'un plan d'eau à l'autre, peu importe l'embarcation en fait, hein, le risque qu'ils ont de propager cette plante-là, puis de les sensibiliser finalement à faire l'inspection puis le nettoyage là, manuel qu'ils peuvent faire en fait eux-mêmes là, de leur matériel puis de leur embarcation. Que ce soit de l'équipement de plongée, que ce soit un canot, un kayak, un embarcation à moteur, bien évidemment. Mais c'est ça. Finalement, c'est toutes les personnes qui se promènent d'un plan d'eau à l'autre avec du matériel ou une embarcation devraient adopter des mesures là, pour faire l'inspection puis le nettoyage de leur matériel, de leur embarcation.
J'irais même plus loin en demandant s'il y a des mesures comme l'inspection obligatoire, par exemple, des hydravions qui se promènent de point d'eau en point d'eau, mais partout aussi dans la région?
C'est un très bon point. Les hydravions, on le voit qui peuvent effectivement là, propager la plante. C'est sûr que nous, dans le fond, on a un projet régional là, sur lequel on travaille depuis déjà depuis 2016, puis on devrait être en mesure de travailler à l'échelle de la région à partir de l'année prochaine. Puis il y a une vidéo en fait qui a été faite aux États-Unis de l'association des pilotes d'hydravions, puis qui est faite par les pilotes eux-mêmes sur dans le fond des certaines choses qui peuvent être faites pour éviter de propager les plantes aquatiques envahissantes d'un plan d'eau à l'autre. Nous, on aimerait arriver avec un outil comme ça là, soit traduire cette vidéo-là ou soit arriver avec un outil là qui serait vraiment fait par pour les pilotes d'hydravion là avec des solutions vraiment concrètes sur des mesures qui peuvent être prises là pour limiter la propagation par les hydravions. Parce qu'effectivement, ça fait partie des vecteurs là de propagation là ces embarcations-là.
Actuellement, le Creux Laurentide vit de quoi? De subventions du ministère de l'Environnement pour vos recherches? Vous allez chercher vos... Parce qu'évidemment, pour trouver des solutions, ça prend du financement, ça prend des gens, des experts, des scientifiques, des chargés de projet, des gens qui connaissent le domaine. Vous allez chercher ça comment?
Je vous dirais que premièrement, on est une très petite équipe. On est deux chargés de projet et la directrice générale, là, dans le fond, de manière permanente, à temps plein. On a une subvention de fonctionnement qui nous vient du ministère de l'Environnement, mais qui est très minime, là, et qui a pas été augmentée depuis plusieurs années, puis qui a été coupée, là, en 2015. Donc, ça nous permet pas de faire des projets. Donc, les projets, comme par exemple le projet Bleu Laurentide dont je m'occupe, et les projets spécifiques, là, comme on va faire, là, sur le myriophile à épi, on va cogner aux portes du milieu municipal, des municipalités, des MRC, du gouvernement provincial dans certains fonds. Le projet sur le myriophile à épi, là, c'est le fédéral. Dans le fond, c'est une subvention du fédéral qu'on est allé chercher pour ce projet-là. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas, pour les projets, le projet Bleu Laurentide, il n'y a pas de financement, je voudrais assurer, là, c'est toujours à recommencer d'une année à l'autre, d'aller recogner aux portes des partenaires. Heureusement, on a la chance dans les Laurentides d'avoir des municipalités puis des MRC qui ont compris l'importance de protéger les lacs pour la valeur, dans le fond, de ces milieux-là pour leur municipalité. Donc, ils sont vraiment... quand on amène des beaux projets et tout ça, souvent, ils sont très contents là, d'embarquer avec nous. Donc, On a une région qui est quand même assez mobilisée, donc on est chanceux à ce niveau-là.
Parce qu'il faut le dire, pour que les gens comprennent bien, évidemment, ces lacs-là, c'est synonyme de villégiature, c'est synonyme d'économie chez nous, dans les Laurentides, évidemment, à long terme, si on ne s'occupe pas de ce dossier-là, qu'est-ce qui pourrait arriver?
Bien, c'est sûr que les gens viennent dans les Laurentides pour la nature, pour profiter des lacs, profiter de la forêt. Donc, on le voit avec le Mirifil à épi, que ça cause beaucoup de problèmes dans les lacs où il y en a en grande quantité. Les gens se demandent même là pour la valeur de leur propriété si ça va pas avoir un impact. Je crois que les lacs, là, ça fait partie de l'ADN des Québécois. De pouvoir se baigner l'été, de pouvoir faire différentes activités. Donc, c'est vraiment une richesse pour notre région. Puis, effectivement, il faut tout faire pour protéger ça. Dans les Laurentides, là, on a 8000 lacs de plus d'un hectare, là. Donc, c'est quand même vraiment une région de lacs. Donc, ça a une importance capitale, là, pour la villégiature, le tourisme et l'économie de nos municipalités, effectivement.
Actuellement, on le sait, on est en période électorale. Il y aura les élections là, municipales le 5 novembre. Est-ce que c'est un sujet qui s'est invité dans la campagne, que ce soit ce dossier-là, mais la lutte au changement climatique, par exemple, ou l'environnement en tant que tel? Est-ce que vous remarquez que c'est présent dans la campagne actuellement?
Bien, en fait, nous, on a fait un communiqué de presse récemment pour demander justement aux élus de mettre au centre de leurs préoccupations les changements climatiques là dans le cadre de cette campagne-là. Excusez-moi. Puis, évidemment, de poursuivre finalement les actions pour la protection des lacs. Nous, on travaille directement hein, avec les municipalités, là, surtout en période estivale, puis on entend beaucoup d'élus finalement qui mettent ces préoccupations-là, heureusement, là, au centre de leur discours. C'est sûr que on a 61 municipalités qui ont des lacs dans les Laurentides, 76 là, de manière générale. Donc, c'est sûr que c'est pas uniforme sur le territoire. Par contre, on voit que pour plusieurs, ça fait partie, heureusement, des priorités.
En terminant, donc, je pense qu'il y a un mot, c'est la prévention, mais la détection, évidemment, aussi. Mais sinon, la prévention, je pense même qu'au niveau économique, pour une municipalité, ça peut être difficile, puis ça peut être assez coûteux de la contrôler une fois que l'espèce est introduite. Donc, au mot de la fin, on pourrait dire que c'est vraiment de prévenir puis d'être vigilant pour lutter contre cette espèce-là?
Tout à fait. Puis nous, on vise pour ça, je vous l'ai mentionné tantôt, de former les bénévoles des associations de lacs, mais également aux accès publics des plans d'eau. On va avoir différents outils là, à proposer, des panneaux d'information, des brosses pour faire le nettoyage des embarcations du matériel. On va avoir des agents de sensibilisation sur le territoire là pour les deux prochains étés. Donc, c'est vraiment, faut continuer à transmettre le message, puis à informer les gens là, sur cette plante-là pour que ça devienne vraiment un réflexe là, pour tout le monde éventuellement de contribuer à la prévention là, pour limiter l'infestation de nos lacs. On prévoit l'automne prochain faire un forum sur la question du mirifil à épi, puis vraiment essayer de démystifier un peu là tout ce qui se fait en termes de contrôle notamment de la plante actuellement, puis vraiment amener là, les plus récentes connaissances là en matière de mirifil à épi, de gestion de tout ça à la population. Donc un événement qu'on souhaite organiser l'automne prochain dans le cadre de notre projet sur le mirifil à épi qu'on va avoir pour la région.
Et par la suite, les résultats de ce qui aura été apporté à ce forum-là seront transmis, par exemple, au gouvernement, aux autorités concernées?
En fait, les gouvernements vont être invités à participer. Donc, nous, le CRE Laurentides, je ne sais pas si vous saviez, mais on a organisé les forums nationaux sur les lacs pendant 3 ans, là, en 2006, 2008, 2014. Donc, on a vraiment un réseau là de partenaires. Puis justement, ces forums-là servent à inviter les experts du milieu universitaire, les experts du gouvernement, servent dans le fond à leur donner une voix là à la population là qu'ils n'ont pas toujours non plus là pour amener les plus récentes connaissances. Donc, évidemment, ces gens-là seront tous conviés à ce forum-là, ainsi que les différents groupes d'utilisateurs des plans d'eau, donc les pêcheurs, les associations d'hydravions, ces choses-là. Donc, on veut rejoindre aussi et inviter là, à cet événement-là.
Ça montre donc le sérieux quand même de la situation, évidemment.
Oui, tout à fait. Puis on travaille aussi avec le Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes, là, qui, lui, au niveau canadien, a une voix aussi là pour la gestion des espèces envahissantes. Donc, on a plusieurs partenaires là dans le cadre du projet qui doit démarrer là sur le Myriophile Haïpi dans la région, là, qui finalement déborde de la région des Laurentides, qui sont au niveau du Québec et même du Canada.